E lá a chuva, como é a chuva lá?
Não é assim.
Lá não chove, não?
Ah. Chove, mas não é assim.
Oh, c'est des gouttes énormes, c'est presque de la grêle hein, qui tombe.
Et la chuva est tropicale.
Sent bon la terre mouillée, puis il y a encore des petites odeurs de fumée, de fumée de bois comme ça. Ah, il y a des fuites. Des petites fuites.
La vengeance de la pluie.
C'est peu de dire que la nature est violente. On est en Amazonie. La forêt a été entièrement rasée dans cette région, brûlée. De l'herbe, des herbages ont été semés par avion pour fabriquer du soja et du bétail pour l'exportation, des affaires complètement aberrantes dues au fait que le Brésil est un des pays les plus endettés du monde, c'est-à-dire sous suggestion, on peut dire, des grandes instances comme le FMI et la Banque mondiale. Il y a une liberté politique extrêmement réduite. Pour cette raison-là, les histoires de combat pour la terre au Brésil remontent à très longtemps, mais enfin on peut les faire commencer à la colonisation. Les Portugais ont chassé les indigènes de leurs terres et plus tard les esclaves ont lutté pour la liberté, bien entendu pour le droit à la terre. Il y a eu C'est une constante dans l'histoire de ce pays que des gens qui luttent pour la paix, pour la terre et pour la liberté en s'organisant comme ils peuvent. Et dans notre siècle, ça a continué jusqu'à la dictature qui est arrivée en 1964. Et là, les mouvements de sans-terre ont été réprimés, les grands propriétaires ont été favorisés, il y a encore eu de plus grands regroupements de terres. Et là, pendant la durée de la dictature, l'Église brésilienne a eu une attitude particulière d'aider ces mouvements populaires, de les héberger. Et c'est en fait la commission pastorale de la terre qui est à la base de ce mouvement des sans-terre. La commission pastorale de la terre continue son action, une action très courageuse. Et donc ce mouvement des sans-terre se bat aujourd'hui avec le succès qu'on sait et la popularité aussi, parce que c'est un mouvement qui est très populaire au Brésil. Alors, c'est un drôle de mélange, hein. C'est un drôle de mélange, ce mouvement, ce passé, et puis cette présence aussi des chrétiens, des catholiques, de la théologie de la libération, un mélange qui nous étonne et que nous explique Stédil, qui est le porte-parole du mouvement des sans-terre.
Nous avons l'habitude de dire que notre lutte
est
une lutte permanente contre trois murs. Le premier mur, c'est celui du latifundio,
c'est-à-dire des propriétaires terriens,
qui talvez seja o mais fácil de derrubar.
Qui finalement est peut-être le plus facile à détruire.
O segundo é o muro do capital.
Le second est le mur du capital.
Que impede as pessoas de trabalharem.
Qui empêche les gens de pouvoir travailler.
E viverem do seu próprio esforço.
Et de pouvoir vivre de leur propre effort.
E o terceiro muro é o muro da ignorância.
Et le troisième mur, c'est le mur de l'ignorance.
E por isso que nós no movimento nos esforçamos tanto para democratizar a educação.
E c'est pour cela que nous dans le mouvement nous nous efforçons autant pour démocratiser l'éducation.
E nós procuramos educar o povo para que se organize e lute todos os dias.
Et nous cherchons toujours à éduquer le peuple pour qu'il s'organise et puisse lutter tous les jours.
Contra esses três muros.
Contre ces trois murs.
Là, on entend de temps en temps une cloche qui sonne. Ici, on est dans un couvent. Il y a des prêtres, il y a des religieuses. Parle-moi un petit peu de l'élément religieux et peut-être plus largement de la théologie de la libération aujourd'hui, de la place de la théologie de la libération dans le mouvement des sans-terres.
Aqui no Brasil, nós dizemos que 110% dos camponeses são cristãos.
Disons que 110% des paysans sont chrétiens.
de maneiras que há uma presença religiosa permanente na cultura do campo.